Allons dans le livre des Juges, au chapitre 1. On vient de terminer une série dans la dernière année, et c'était tiré plus que j'aurais voulu à cause du paternité de mon congé, donc on l'a terminé au lieu de juin en décembre. Et vous savez, cette série était importante pour moi. J'avais planifié en 2017. J'avais fait au conseil une planification sur 4 ans des prédications à venir, des séries à venir. Et le Seigneur a modifié un peu les plans et finalement a placé l'Apocalypse une année plus tard que j'avais prévu. Et le Seigneur savait pourquoi. Et je pense que le timing de Dieu était bon dans cette pandémie de regarder le livre de l'Apocalypse et de regarder Christ, le super-héros, dans les difficultés que l'Église doit relever, dans les difficultés que les croyants, les saints, dans les tribulations vont devoir relever, les leçons qu'on a à apprendre sur Christ, sur la relation avec nous, sur ses pouvoirs, qu'on a accès, son aide dans les difficultés. Et je me rappelle avoir pris un cours lorsque j'étais en 4e année à l'école biblique, il y a 26 ans de ça, j'avais un cours sur l'Apocalypse dans ma 4e année. Et c'est un cours qu'on devait faire à la maison parce qu'on était stagiaire dans une église. Et j'avais fait un cours sur l'Apocalypse et j'étais convaincu déjà à ce moment-là, un jour, Seigneur, tu veux que j'enseigne l'Apocalypse intégralement, chaque chapitre, chaque verset. Et le Seigneur m'a permis de le faire et d'enseigner maintenant à Bethel depuis 3 ans. Je vais y aller retourner donner le cours pour une 4e année, le livre de l'Apocalypse. Et je trouve que c'est un privilège. Si vous avez manqué la série ou il y a des chapitres que vous voulez retourner étudier, bien, c'est tout sur le site et les notes sont toujours disponibles pour ceux qui... Il y en a plusieurs qui m'écrivent et qui ont reçu les notes sur demande. Et j'espère, parce que plusieurs m'en ont rendu témoignage, que pour ceux pour qui le livre de l'Apocalypse est un livre un peu épeurant, un livre intimidant, un livre qui semblait inaccessible comme compréhension, plusieurs m'ont dit, Joël, ça m'a aidé à démystifier et arrêter d'avoir peur et de voir les bénédictions qu'il y a dedans et d'avancer dedans. J'espère que pour vous, ça vous aide et si ce n'est pas le cas, de retourner et de continuer parce que c'est le dernier livre de la Bible, c'est la conclusion. C'est important de comprendre le début, la Genèse, et de comprendre la fin. Ils vont ensemble. Un ne peut pas aller sans l'autre. Ça serait comme lire finalement un livre de Sherlock Holmes et de sauter le dernier chapitre. On vous traiterait de fou. Parce que c'est là que toute l'intrigue se trouve résolue, n'est-ce pas? Ça serait de la folie de ne pas profiter. Mais il faut avoir lu tout au complet avant pour bien saisir toutes les particularités, les détails de cette conclusion, n'est-ce pas? Il en est ainsi aussi avec la Bible et le livre de l'Apocalypse. On s'en va dans le livre des Juges. Je tente dans mon ministère comme prédicateur, enseignant, de vraiment essayer de balancer toujours un équilibre entre Ancien et Nouveau Testament. Certains aiment beaucoup le Nouveau Testament et considèrent l'Ancien Testament comme vieux, comme ancien, comme désuet. Et Jésus a dit qu'il est venu accomplir, pas effacer l'Ancien Testament, l'accomplir. Mais si on veut comprendre qu'est-ce qu'il a accompli, il faut lire l'Ancien Testament. Et donc, je tente toujours d'avoir un équilibre, parce qu'on va dans le nouveau, on va dans l'ancien, on va dans le nouveau, on va dans l'ancien, pour balancer les choses. Et il y a 20 ans presque, j'enseignais à la jeunesse, chapitre par chapitre, le livre de Josué, Juge, Ruth, pendant une période d'un an. Et donc, j'ai eu l'occasion d'enseigner à travers le livre des Juges. Et dans ma lecture personnelle, il y a plusieurs mois de cela, je parcourais encore cette séquence de livres dans l'Ancien Testament. Et ça m'a mis à cœur de vraiment prendre le temps, pas d'enseigner le livre au complet des Juges, mais d'enseigner en 6-7 prédications probablement l'ensemble du message du livre des Juges, alors que je l'avais enseigné en 14 prédications. C'est un livre de 21 chapitres, mais qui pourtant est aussi intimidant parce qu'on y lit des horreurs. On y lit des histoires pas d'allure. Même, j'irais, plus que choquant, scandalisant. Qui fait que parfois même, les gens qui sont chrétiens dans l'Église ont parfois un peu honte qu'un livre comme Juge se trouve dans notre Bible, dans l'Ancien Testament. Tellement qu'il y a des histoires qu'on voudrait que nos enfants et que personne lit. Il y a des histoires. Et je vais vous en conter une de ces histoires dans une des prédications, dans la fin du livre, qui n'a pas d'allure. Mais il y a une raison pourquoi le Seigneur a permis que ce livre soit écrit pour nous décrire une partie de l'histoire d'Israël avec laquelle je crois qu'on a une correspondance. On dit dans les derniers chapitres du livre des Juges que chacun faisait comme bon lui semble à cette époque-là. Il n'y avait pas de roi. Il y avait des juges, ça allait et ça venait, dans des régions, pas tout le pays. Et chacun faisait comme bon lui semblait. Et il me semble qu'on vit dans une époque aussi où chacun fait comme bon lui semble. Ou du moins, chacun croit et pratique une religion comme bon lui semble. Chacun choisit et élimine des valeurs morales comme bon lui semble, selon ses critères personnels, ce que je veux et que je suis bien avec. C'était une époque chaotique. Et on vit aussi une époque chaotique, moralement, émotionnellement, spirituellement. Et vous savez, même si nous, en Amérique du Nord, on est un peu choyés à l'abri des bombes, là, j'aimerais vous rappeler que dans beaucoup de pays du monde, il y a de la guerre. Et ce n'est pas juste l'Ukraine, parce qu'on en parle tout le temps dans les nouvelles. Il y a beaucoup plus de pays en Afrique qui vivent de la guerre, des meurtres, des tribus qui se font effacer, persécutées parce qu'elles sont chrétiennes, des gens qui se font tasser par des tribus musulmanes, qui se font tuer pour leur foi. Il y en a beaucoup plus en Afrique. C'est juste que c'est moins populaire d'en parler, soyons bien honnêtes, à notre honte nord-américaine. Peu de soucis pour les endroits qui sont moins économiquement ou stratégiquement profitables pour nous en Amérique du Nord. Ça doit être dit. Le livre des Juges nous montre des gens qui ont passé à travers cette période de temps. Il nous donne des leçons, et l'auteur nous donne des leçons, particulièrement dans les deux premiers chapitres, sur ce défi de transmettre la foi à la prochaine génération dans un contexte chaotique. Et il me semble que j'en ai de besoin. Il me semble que nous en avons de besoin. Que notre génération a besoin d'entendre cela et qu'on a besoin de saisir c'est quoi ces valeurs dans ce monde chaotique avec lequel on est en train de se battre. Et que nos enfants sont confrontés sans aucune pitié. Les coups bas sont permis pour transmettre les mauvaises valeurs morales de notre société auprès de nos enfants. Il n'y a pas de gêne. Nous, on est en train de voguer dans une autre génération, déconnectée de ce qui se passe dans la nôtre, choquée contre la nôtre, indignée contre la nôtre, et qu'on est juste en colère contre notre génération, on ne la comprend pas, et on est plus en colère qu'on peut être constructivement en train de penser, « Seigneur, comment je peux avoir un impact dans ce beau défi qu'est ma génération? » Et on peut être pris dans ce sentiment de révolte, de colère, plus que d'être constructivement en train de consulter l'Éternel, parce qu'il y a des défis dans toutes les générations. Allez pas penser que la nôtre est pire que les autres. C'est un défi de transmettre la foi à toutes les générations. Et donc, ce livre des Juges, je crois, contient des vérités pour nous vraiment importantes, que j'aimerais qu'on regarde ensemble à travers une série de 6 prédications et compléter cela avec le livre de Ruth, au mois de mai-juin, qui va nous donner maintenant de l'espoir dans le chaos. C'est possible des histoires de rédemption au milieu, on va le dire, du bordel humain. Dans tous les sens du mot. Et Esther, de nulle part, pas Esther, excuse-moi, Ruth, de nulle part, vient nous donner une histoire qui nous donne de l'espoir. Et on va regarder cela ensemble aussi en 4 prédications. Donc, juste un avant-goût de ce qui s'en vient. Ce matin, je lis avec vous un chapitre que probablement la majorité d'entre vous peut-être n'ont pas lu. Ou si vous l'avez lu, vous le lisez rapidement parce qu'il nous semble qu'il est peu intéressant, peu constructif. Et dans ce temps-là, ça me donne encore plus le goût de gratter. Parce que je me dis, lorsqu'on n'est pas intéressé, il y a souvent des vérités qu'il faut juste creuser et travailler un peu plus fort pour aller chercher ces pépites d'or, ces perles, qui ne viennent pas à la surface facile. Il faut gratter, il faut travailler, il faut creuser. Et c'est comme ça aussi quand on scrute les Écritures. Une lecture superficielle du livre de Josué pourrait nous donner l'impression qu'il y a 1400 ans avant Jésus-Christ, Les gens qui sont rentrés en Israël, ça a été assez facile. Dieu leur a donné des grandes victoires, des victoires miraculeuses, que ce soit les murs de Jéricho qui sont tombés ou d'autres villes avec moins de monde. Le Seigneur leur a donné en 5 ans des grandes batailles. Et on a l'impression, en regardant le livre de Josué, dans une lecture superficielle, que le gros du pays avait été conquis. C'était boum, fini, c'est assez facile. Mais l'auteur du livre des Juges vient nous donner des nuances et un récit complémentaire, pas contradictoire, complémentaire. Et il vient nous raconter que, en fait, des grandes batailles ont été faites dans des régions stratégiques, mais après ça, chaque tribu était appelée d'aller conquérir dans son bout de terrain le reste des villes. Oh! Et c'est là que ça s'est gâté. Tout à coup, chacune des tribus, dans son territoire, devait aller compléter le reste du travail à mesure que la population grandissait de leur tribu, de conquérir ces villes-là avec la même foi et les mêmes promesses données par Dieu, mais là, en plus petits groupes. Dans la première, mais aussi dans la deuxième, la troisième génération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils vécu ça, cette première génération de gens qui devaient, de manière tribale, continuer la conquête plus globalement? Et c'est ce qu'on lit dans le chapitre 1. Et je ne vais pas vous lire chacun des versets intégralement, je vais choisir certains des versets qu'on va regarder, on va parcourir et résumer et aller chercher qu'est-ce que l'auteur voudrait qu'on retienne. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a de grandes leçons pour nous dans ce premier chapitre, qui à première vue pourrait paraître comme plein de villes que je ne connais pas, d'informations historiques, puis archéologiques, puis historiques, puis géographiques. Bah, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça, la géographie, l'histoire. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je vais passer par-dessus ça tranquillement. Je vous promets des leçons importantes dans ce premier chapitre. Si vous nous faites confiance, on va avancer ensemble tranquillement. J'ai votre confiance que le Seigneur veut vous parler dans ce texte. Amen. On va lire quelques versets puis prier le Seigneur qu'il puisse bénir notre temps ensemble. Allez dans le chapitre 1, on va lire les quelques premiers versets. Vous avez remarqué la nouvelle tribune en passant, hein? C'est joli, hein? C'est discret, ça prend pas trop de place. C'est Michel qui s'est occupé de tout ça pour qu'on ait quelque chose plus stable pour nous. Parce que des fois avec les trépieds, c'était difficile. Alors merci Michel, reconnaissant pour ça. Puis là, on peut mettre une belle petite bouteille, là, puis quand on a mal à la gorge, tu sais, là. C'est pas merveilleux, hein, de pouvoir vous boire d'en face. Verset 1. Et là, je vous lis de ma bonne vieille Bible, Scofield. On va lire les 7 premiers versets. Après la mort de Josué, donc il y a eu 5 ans de conquête, là maintenant c'est clair, c'est après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Quel beau début de chapitre. La première phrase, on demande à Dieu quelque chose. C'est rassurant. En disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Il n'y a plus de Josué, il n'y a plus de Moïse, il n'y a plus un dirigeant de tout le peuple. Mais c'est qui va y aller? Qu'est-ce que Dieu fait? On lui a posé une question. Dieu répond. L'Éternel répond. Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Alors, c'est lui qui, parmi les 12 tribus, a été choisi pour être la tribu leader, la première qui va diriger le peuple, qui va être en avant pour donner le ton et montrer la bavure et que Dieu bénit comme leader parmi les tribus. On va en reparler. Pourquoi? Et Judas dit à Siméon, son frère, une tribu qui était beaucoup plus petite en passant. Ils sont 76 000, on nous dit, 5-6 ans auparavant. 22 000 seulement pour Siméon, qui a beaucoup rajeuni et rapetissé en termes de tribu pendant les 40 ans dans le désert. Et Siméon, donc, son frère de la même mère, Siméon et Judas ont comme mère Léa. Donc, très proche. Il dit, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Viens avec moi, on va faire ça ensemble en équipe. Sure, pourquoi pas, on est frères. Et j'irai aussi avec toi dans celui qui est échu en partage. Et Siméon allait avec lui. Alors, ils font équipe. Ça va jusqu'ici. Judas monta et l'Éternel livra entre ses mains les Cananéens et les Phérésiens. Et là, dites-tu de vous dire, bien là, Joël, il n'y a rien de négatif. Tout est positif. Amen. Profitons-en quand c'est positif. Et regardons ce qu'il y a. Il y a d'autres choses qui s'en viennent moins positifs. Et on nous dit qu'ils ont finalement battu 10 000 hommes à Bézek, une ville qu'ils devaient donc conquérir. Et ils trouvèrent à Adonis Bézek, c'est le nom de, du, en fait, ça veut dire maître ou seigneur de Bézek. C'est tout ce que ça veut dire. Et ils l'attaquèrent, ils battirent les Cananéens, les Phérésiens. Et cet homme-là prit la fuite, mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Bon, déjà comme Nord-Américain, on est un peu choqué. Faites-vous choquer, là. C'est quoi ces barbaries-là, franchement? Hein? On va lire après. Qu'est-ce qu'il dit après? Peut-être qu'il y a une explication, verset 7. On dit, Adonis Bézek dit, 70 rois, donc l'homme qui vient de recevoir ces supplices-là, dit, 70 rois ayant les pouces et les mains, les pouces des mains et des pieds coupés, ramassèrent les miettes sous ma table. Oh, monsieur avait l'habitude d'avoir d'autres dirigeants de d'autres villes qui avaient conquéris, de les placer vulnérables avec ces sévismes-là sur leur corps, en train de quémander. Sous sa table, il se trouvait, c'était un power trip, là. Et donc, il dit après ça, qu'il ramassait les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Intéressant. Dieu me rend ce que j'ai fait. Et on l'assembla, on l'amena à Jérusalem et il y mourut. Et on dit qu'après ça, Judas attaqua Jérusalem et ainsi de suite. Prions le Seigneur, puis on va commencer à gratter dans notre texte. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, nous lisons un texte que tu as préservé depuis plus de 3000 ans. Et certainement, Seigneur, s'il a été préservé par toi, par les croyants à travers les époques, certainement qu'il contient encore pour nous en 2023 des instructions. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on vient de lire. Alors, Seigneur, on te demande, tout comme ces hommes t'ont demandé de la direction, instruis-nous, s'il vous plaît, ce matin. Parle à nos cœurs. Toi qui connais nos défis de notre génération, tu connais les défis de mon cœur, tu connais les mensonges avec lesquels notre société nous met des tensions et qu'on doit se battre continuellement et qui s'infiltrent parfois si naturellement et subtilement qu'il est difficile de combattre contre ces mensonges. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Instruis-nous. On a besoin d'entendre ta voix. Et conduis-moi, Seigneur, à travers ce chapitre pour contribuer à l'édification de mes frères et mes sœurs, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui écoutent en différé, autant que ceux qui écoutent présentement dans la salle. Bénis ta parole dans nos vies, s'il vous plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te le demande. Amen. Alors déjà, une petite intrigue en lisant ces premiers versets d'une activité particulière, n'est-ce pas, d'avoir coupé les pouces des quatre extrémités, et vous comprenez certainement le pourquoi de ça, parce que ça empêchait un homme de se sauver après ça, si tu faisais ça, ça empêchait un homme de manier l'épée avec force, donc ça l'empêchait par ses mutilations, ça l'humiliait dans ses capacités de autodéfense, et donc il devenait vulnérable et il devenait soumis à celui qui avait fait ses sévismes. Et la Bible nous dit pas ici que Dieu était d'accord avec ça. Certains auteurs considèrent qu'il y avait peut-être une place dans la loi pour la rétribution qui justifie ça. D'autres disent non, il aurait été supposé d'éliminer le roi tout comme le reste de la ville. En même temps, c'est intéressant d'entendre cet homme-là, non-juif, qui dit « c'est une punition juste de la part de l'Éternel ». On n'est pas en train de parler ici d'un croyant. C'est un homme qui dit « j'ai fait ça à d'autres et là je reçois ce que j'ai mérité, ce que j'ai fait à d'autres, c'est normal ». C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Cet homme-là, croyant ou pas, je n'ai pas mon impression qu'il est croyant, mais bien lucide que ce que tu sèmes, tu récoltes à un moment donné. L'Ancien Testament raconte cette histoire plusieurs fois, ce que tu sèmes, tu racontes et donne des illustrations. Et le Nouveau Testament réitère cette même chose. Notre consolation est la suivante, c'est que la Bible nous dit, et quand on parle de rétribution, c'est le mot pour salaire. Tu reçois ton salaire. Quand tu reçois ta paye, là, tu reçois ce que tu mérites, c'est-à-dire que tu as donné des heures, une compétence, il y a une entente qui est faite, tu as fait tes heures, on te donne ton salaire. Tu reçois ta rétribution, n'est-ce pas? Tu as semé du travail, des études, et là tu récoltes le travail de la semaine, tes études, etc. Maintenant, est-ce que dans la vie, on récolte toujours ce qu'on sème? Pensez-y. Est-ce qu'on récolte toujours ce que l'on sème? Je vois toutes sortes de réactions, hein? C'est mitigé dans la salle. Je ne ferai pas un vote parce que je ne veux pas faire de division d'église, là. Mais Cette réponse contradictoire nous dit ceci, c'est que c'est très nuancé. C'est tout à fait vrai, mais en même temps, si on recevait tout ce qu'on méritait, qu'est-ce qu'il en serait? Il n'y aurait pas d'assemblée ce matin. On serait tous morts. Amen. Vous êtes conscients de ça? La Bible dit « car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». On est tous pécheurs. Alors, si on reçoit ce qu'on mérite comme salaire, la Bible nous dit qu'on mérite tout d'être mort et en enfer. C'est dur ça, Joël, ce que tu dis un matin. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus et les auteurs, les disciples du Nouveau Testament qui nous rappellent cette vérité. Combien de fois dans votre vie, vous avez fait quelque chose, puis vous êtes tourné là, vous dites, oh, Seigneur, j'aurais pu avoir une plus grosse bévue là. Merci d'avoir été gracieux. J'ai pas tout reçu ce que j'aurais pu mériter. Et combien de fois ça arrive, on ne remercie pas Dieu. On prend ça pour acquis. Amen. Tristement. Mais combien de fois aussi est-ce qu'on reçoit des choses qu'on n'a jamais méritées? Des grâces de Dieu, une gentillesse de Dieu qu'on n'a jamais gagnée par pure gentillesse que Dieu nous accorde, qui va bien au-delà de notre mérite, parce que si Dieu va au mérite, selon nos œuvres, on est damné, n'est-ce pas? Alors Dieu merci que dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus nous dit que si je crois en lui, il est possible de court-circuiter cette vérité de ce que tu sèmes, tu récoltes. Et que tout à coup, je peux récolter, si je crois en Jésus, les bienfaits de Jésus. Un repos immérité, un pardon gratuit qu'on ne peut pas acheter des péchés. Une conscience claire, pas parce que je l'ai travaillé, ma conscience, puis je la mérite, parce que Jésus l'a clarifié en payant pour chèrement. Mais ici, un principe qui, néanmoins, dans le quotidien, c'est vrai que de manière générale, on récolte ce qu'on sème. C'est vrai, de manière générale, pas absolue. Et par principe, c'est vrai aussi. Combien d'employeurs ne sont pas gentils avec leurs employés? Et ils ne nous le disent pas aux médias quand ils disent « Ah, on manque d'employés, là, c'est difficile. » Ouais, mais il y en a là-dedans, c'est parce qu'ils ne sont pas fins, que leurs employés sont durs, pas très compréhensifs quand il y a un enfant qui est malade, puis pas très compréhensifs quand il y a des problèmes dans la vie durs. Il faut négocier à la carte avec du sang quasiment pour une augmentation d'une pièce, de 50 cents. Mais il ne faut pas se surprendre que c'est difficile d'avoir des employés quand tu ne les traites pas bien. Amen. Tu sèmes, tu récoltes, n'est-ce pas? Et ça, c'est un exemple facile parce qu'on le voit souvent autour de nous. Mais combien de fois aussi on prend des mauvaises décisions, mais là, on récolte. Qu'on n'a pas bien traité les autres. Regardez M. Richard. Depuis sa conversion, je ne sais pas comment il était avant sa conversion, mais les gens témoignent de la gentillesse de cet homme-là et comment il était un bon ami pour les autres. Mais M. Richard, là, il n'était pas tout seul à l'hôpital, vous savez. Il y avait continuellement des visites. Il avait semé se préoccuper des autres et de servir. Fait, qu'est-ce qui arrivait? Un homme comme ça, qu'est-ce qui arrive généralement? Il se fait visiter à l'hôpital, il n'est pas tout seul, vous voyez? Cette idée de semer, récolter, va des deux sens, mais de manière absolue. Vous comprenez l'idée? On est tous fichus si c'est pratiqué à la lettre. Et quand on lit à la fin que le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 20, dit « Il leur donna selon leurs œuvres ». Si le Seigneur nous donne selon nos œuvres, on est fini. Mais Dieu merci, si vous avez cru dans l'œuvre de Jésus, tout cela peut être court-circuité et qu'on peut bénéficier de ce que lui a semé. Par pure grâce. Amen. Maintenant, je continue dans notre chapitre, puisqu'on a déjà lu cette encourageante note au tout début. Et là, je vais parcourir, parce que là, j'ai sauté un peu mon PowerPoint, puis je l'ai fait, tu sais, autant l'utiliser. Hein. Alors, le défi est le suivant. On va passer à travers ce livre. Et à travers ce livre, il y a une introduction. C'est particulier, la structure du livre est très pédagogique. OK? Il y a deux chapitres d'introduction. Le premier qui nous met comme à la page de où est-ce qu'on est. Et c'est ça qu'on va faire. On va se mettre à la page du défi de la première génération. La deuxième chapitre nous explique maintenant le principe ou la manière, l'œil, pour interpréter le reste du livre. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là et nous donner les principes généraux au chapitre 2. Et là, on va le voir illustré à travers tous les juges, mais particulièrement des récits plus gros où il y a quelques juges qui se démarquent, qui ont plusieurs chapitres, d'autres juges, on va juste mentionner, donner aucune information sur eux. Mais il y a des juges très populaires dont on donne 2, 3, parfois 4 chapitres dont j'ai mentionné ici, mais en réalité, il y en a 12 de juges. Et à la fin du livre, il y a un annexe, une sorte de... Ce n'est pas une réelle conclusion, c'est comme... Je vais vous dire ça de manière... Je ne suis pas choqué, mais c'est vraiment ça vous allez, quand vous allez lire. Mais un annexe bordélique. Oui, j'ai utilisé ce mot-là, là, mais c'est le chaos total. Il va venir nous donner 2 histoires à la fin qui servent en quelque sorte d'illustration pour montrer, écoutez, cette époque-là, là, ça avait ni queue ni tête. C'était une époque de fou. C'était une époque avec des histoires, mais choquantes, que vous ne voulez même pas finir l'histoire. Que vous finissez l'histoire enragé à lire ça. Puis c'est vrai. Vous allez lire ça et vous allez être choqué. Mais là, retournez au chapitre 2 et là, vous allez lire le chapitre 2 et ça va vous donner les jumelles, les lunettes à utiliser en regardant le livre. C'est l'auteur qui vous dit, regardez comment vous devez comprendre ce que je vous écris. Mettez les lunettes chapitre 2. On va le regarder la semaine prochaine. Et là, on va comprendre pourquoi il utilise ces histoires. Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne dans ma vie, sur ma relation avec Dieu, pour comprendre ce qui se passe autour de moi et comment gérer ce flou et ce chaos autour de moi et le défi de transmettre la foi au milieu de tout ça. Donc, c'est 2 histoires à la fin. Et on voit, dans le premier chapitre particulièrement, plusieurs petites informations que le lecteur aguerri va voir qui sont des informations préparatoires à des histoires qui s'en viennent. Oh, il y a une petite information au verset 10 qui nous aide à comprendre le chapitre 4. Oh, il y a une petite information au verset 36 qui nous aide à comprendre l'histoire de Dan à la fin. Il y a des petites informations que quand on lit, il faut retourner au chapitre 1, qui nous servent comme de repères. Fait que c'est pas anodin le premier chapitre ou deux pour nous aider à comprendre ce livre-là. Et c'est pour ça que je m'attendrai pas à des détails qui vont devenir lourds à regarder. J'y ferai allusion seulement si c'est utile en cours de route. Mais ça vous donne un aperçu. Parce que je ne veux pas que ça devienne un cours. Et là, ici, c'est ce qu'on vient de lire essentiellement. On lit l'avancée dans les premiers 20 versets de la tribu de Juda qui est appelée à être le leader. Pourquoi? Bien, on sait que Jésus vient de la tribu de Juda. On le sait aussi par le fait que c'est un homme de la tribu de Juda, David, que Dieu a choisi pour devenir le premier roi d'Israël, le deuxième roi en réalité, mais à qui il a fait des promesses qu'on voyait qu'à travers tout ça, finalement, allait venir à travers lui le Messie, Jésus-Christ. Et donc, la tribu de Juda n'est pas choisie de manière anodine. C'est très réfléchi et intentionnel. Et son leadership s'est déjà manifesté dans le livre de la Genèse. On l'a déjà enseigné et vu dans la vie de Joseph comment tout à coup Juda va vivre une repentance, va vivre du leadership qui va se démarquer tranquillement dans sa vie lorsqu'il a passé des moments difficiles, une 20aine d'années, qu'en même temps que Joseph est en prison, Juda va passer des années en fait semer le mal et de ramasser le mal. Il est humilié et c'est un homme brisé qui va se retrouver devant Joseph qui tout à coup va réaliser, ouais, on est en train de payer pour les bêtises qu'on a faites. Et là, on voit Juda se repentir et devenir le leader du groupe. Et Seigneur, c'était précurseur, finalement, au fait que viendrait le roi David, le Messie à travers cette tribu qui a été choisie. Et donc, ce n'est pas anodin. Mais là aussi, pourquoi éliminer les Cananéens? C'est une question inévitable qu'il faut adresser. Et on va l'adresser progressivement ce matin, tout comme dans les prochaines semaines. Mais oui, le Seigneur, tout au long du livre de Deutéronome, demande, quand vous allez rentrer en terre promise, il y a un peuple qui est là depuis 1000 ans. Je leur ai donné 1000 ans de patience. Ça se retrouve dans Genèse, chapitre 15, l'idée des 1000 ans. On l'a déjà parlé dans le passé, mais je vous résume ici le message sans lire des justifications. J'ai été patient pendant 1000 ans. Ces gens-là font le chaos, dont Sodome et Gomorre était une ancienne ville dans cette peuplade-là. J'ai éliminé, mais il y a tout le pays. Et ces gens-là continuent dans le mal. Je leur ai donné 1000 ans pour se repentir. Ils ne sont pas repentis. Ce pays-là, je l'avais promis à Abraham. Donc, vous allez rentrer dedans, mais ces gens-là, vous ne pouvez pas habiter avec eux. On ne peut pas faire du marchandage avec eux autres puis négocier. Il faut les éliminer parce qu'ils ont eu la grâce de Dieu pendant 1000 ans. Ils ne sont pas repentis. Et ceux qui veulent le faire, même pendant le processus, comme Rahab, ont l'occasion de se repentir. Rahab va être épargnée parce qu'elle a reconnu le vrai Dieu, elle a donné de l'information, participé, et le Seigneur va lui faire grâce. C'est là qu'on voit que Dieu veut faire grâce. Même à dernière minute, après que le jugement soit prononcé, il le fait avec Rahab. Cette histoire qu'on trouve dans Josué, chapitre 2, 3 et 6. Mais j'ai donné en masse de temps. Ce pays-là, je vous le donne, vous devez les éliminer. C'est dur, ça, Seigneur. C'est pas un... Excuse-moi, Seigneur, c'est une question. ça serait-tu un petit peu barbare ce que tu nous demandes? Il me semble que c'est un peu sauvage, c'est un peu violent. Il n'y aurait pas un entre-deux, tu sais, plus civilisé, Seigneur? Je peux entendre la voix nord-américaine qui dit exactement ce genre de réflexion. Si le Seigneur donne une consigne, vous savez, il donne en plus les explications et il fait pour notre bien. Et parfois, ça dépasse notre compréhension. Et effectivement, c'était clair la consigne, mais rapidement, la consigne devient dure à vivre parce que, vous allez voir pourquoi, d'autres développements, je ne vous donne pas tout de suite. On avance dans notre chapitre pour apprécier le reste de la lecture. Alors, on voit que Jérusalem va être conquis. Encore là, rappelez-vous, ce texte est complémentaire. Fait qu'on réalise que, ah, OK, c'est pour ça que quand il y a des gens qui sont allés à Jérusalem, à mener dans une histoire plus tard, il y avait encore des Cananéens, là. C'est pour ça qu'il fallait pas rester là, que c'était dangereux, etc. On apprend des informations sur la conquête des Cananéens dans la région de Juda, au verset 9. On apprend aussi Hébron. On rappelle l'histoire, finalement, de Caleb. Vous savez, ce Caleb qui avait été fidèle avec Josué, puis qui avait dit, allez-y de l'avant, puis les 10 autres avaient dit non. Bien là, il est récompensé. Moïse, il a fait une promesse. Tu vas avoir une région. Puis il fallait qu'il gagne aussi par les conquérir par la foi. Il le fait. Il reçoit cette ville comme récompense. On voit qu'il y avait des Goliaths, des gens de la famille de Goliath qui étaient là, qui ont dû tuer des Anakim, des géants de l'époque. Un autre sujet que je ne tomberai pas dedans, parce que sinon on va s'enliser dans beaucoup de fossés. Mais des informations qui deviennent pertinentes plus tard à comprendre. Et là, on apprend à propos des Kéniens, encore là, d'informations qui nous aident à comprendre des histoires qui viennent. La conquête d'une autre ville avec Siméon, parce que là, ils ont aidé Siméon et Judas, ils vont ensemble. Mais là, c'est au tour de Siméon. Bien là, Judas s'en va aider Siméon. Ça va bien jusqu'ici, right? On va lire à partir du verset 18. On continue notre parcours dans le chapitre. Et là, on dit, Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire d'Ascalon et de son territoire, et en fait, quand vous voyez le mot territoire, là, c'est on dit Ascalon et ses filles. Gaza et ses filles, c'est l'expression en hébreu pour dire, dans le fond, les villes, les petites villes autour, ses filles, ces petits villages qui en dépendaient, OK? Et dans son territoire. Ah, mais là, un petit peu, si vous êtes familier avec les Philistins, vous savez qu'il n'y a pas juste trois villes philistines, il y en a deux autres qui ont été oubliées. Il y a Ascalon, puis l'autre que j'oublie par cœur, j'ai un de mes amis qui demeure à Ascalon, justement, qui est dans une église comme pasteur, dans une église très florissante et qui a un ministère important auprès des Palestiniens, les gens qui vivent des moments difficiles. Dans cette région-là, anciennement, des Philistins. Mais on dit ici qu'il y en a trois. On va expliquer pourquoi après. L'Éternel fut avec Judas. Ah, c'est réconfortant. Le Seigneur avait dit que, puis il remplit sa promesse. Et là, on voit que leur intervention est due au fait que l'Éternel est avec eux. C'est pas juste parce qu'ils sont forts, qu'ils sont une tribu nombreuse, qu'à deux, on est plus fort. C'est non, il dit, l'Éternel fut avec eux. C'est pas juste par leur propre... Et l'auteur veut qu'il nous le rappelle. Dieu a promis, il a envoyé une personne, il leur a donné de gagner au verset 4. On nous rappelle un peu plus loin, il y a des combats, mais hey, c'est parce que Dieu est avec eux. Ah, OK, c'est pas juste leur force, c'est pas juste la stratégie, là. Ah, c'est bon, OK, on continue à avancer. Et là, on dit, Judas se rendit maître de la montagne. C'est bon, parce que c'est une région montagneuse, mais après ça, il faut descendre vers la mer Méditerranée, où ce que là, c'est des plaines avant d'arriver à la mer. Mais ils ne purent chasser ou déposséder, ou prendre possession d'eux, des habitants de la plaine. Ah. Et on donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et on en chassa les trois fils d'Anak. Et là, on lit tout après, et les fils de Benjamin ne chassèrent point, c'est le même mot qui est utilisé au verset 19, ne purent pas déposséder ou prendre possession d'eux, des Jubéziens, qui habitaient Jérusalem. Attends un peu, on a dit que Jérusalem avait été prise tantôt. Puis là, il y a une partie qui n'a pas été prise. Et on va voir dans la vie de justement de l'histoire de Jérusalem qu'il y a une partie qui est prise, une partie qui n'est pas prise, il y a une partie qui est reprise, puis il y a une partie que c'est finalement David plus tard qui va se débarrasser des Jubéziens qui restent sur une partie de la ville. Il y a une cohabitation. C'est là qu'on voit des informations complémentaires, pas contradictoires. Et les Jubéziens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec Benjamin. Donc, jusqu'à ce jour, c'est avant David, parce qu'après David, ils ont été éliminés. C'est là qu'on voit ici l'antiquité du livre par l'auteur qui dit « jusqu'à ce jour ». À son époque à lui, dans l'époque des juges, ils étaient encore là. Alors, là, c'est important ici, parce que là, on vient de lire le deuxième verbe clé. Le premier verbe clé, c'était « qui va monter ?» Judas. On dit, et il monta au verset 16, au verset 22. On va voir maintenant, c'est un autre tribu qui monta. Ça va bien. C'est utilisé quelques fois, monta. Et là, le deuxième verbe important du livre, du chapitre, c'est déposséder. 12 fois dans ce chapitre-là. Qui va monter et va déposséder, traduit dans vos versions justement, chasser, mais c'est prendre possession de. Qui va par la foi prendre possession de ce que Dieu lui a promis? Et là, rapidement, on a une tribu qui a, il y a un endroit qui ont compromis, on arrive à Benjamin, ah, lui aussi n'a pas dépossédé. Oh, on réalise que, oh, au niveau tribal, on commence à rencontrer des obstacles. Oui, les Philistins, on apprend plus tard qu'ils ont des chars. Ils sont plus sophistiqués, ils ont plus d'armes, mais ils n'ont pas été capables. Là, sais-tu que Dieu les avait abandonnés à ce moment-là? Ils étaient là pour un bout, puis après ça, ils ont laissé faire. Bien, on va lire un peu plus loin, puis comprendre, est-ce que c'était systématiquement comme ça, ou il y a des explications qui nous aideraient à comprendre? Mais ici, là, notez-le ici, ils n'ont pas dépossédé, ils n'ont pas chassé. Et là, ça nous lance un signal qu'on va commencer un mauvais refrain qui va se répéter à travers le chapitre. Alors, on apprend ici que l'Éternel, malgré tout, était avec eux dans les combats. Donc, ce n'est pas que Dieu les avait abandonnés, mais il y a un choix qui est fait quelque part. Et là, leur échec, caché sous la bannière de l'incapacité. On va voir des détails un peu plus loin. Ils ne purent. On ne nous donne pas d'explication pour le moment. Et là, on apprend qu'Hébron était donné à Caleb comme promis. Parce que l'auteur veut nous rappeler ici que les promesses qui ont été faites à Josué, à Caleb, etc., Dieu tient ses promesses, et les promesses aussi faites par Moïse, par l'entremise de l'Éternel, évidemment, sont remplies ici. Maintenant, juste vous donner un aperçu de ce qu'on est en train de décrire ici. Chaque tribu doit conquérir son coin de pays. Alors donc, on a Ruben, et on n'en parlera pas dans ce chapitre-là, les tribus qui sont de ce côté-ci. Ils ont déjà ici pris ce territoire-là, les Juifs, avant de traverser juste ici, autour de Jéricho, et là, d'envahir cette région-là, mais avec des petites parcelles un peu partout qui sont à continuer à défricher. OK? Donc, on ne parlera pas de ces tribus-là ici, excepté Manassé, qui a un peu de territoire de chaque côté. Mais on en parle moins. Donc, il y a Ruben qui est là. Ensuite, il y a Juda qui a un grand territoire, qui partage avec Siméon, qui est plus un petit peu intégré et qui va devenir finalement assimilé à l'intérieur de Juda avec le temps. Ensuite, il y a cette tribu de Benjamin, qui initialement avait beaucoup plus de gens, mais quand on lit toute l'histoire, on comprend qu'à la fin du livre, la tribu de Benjamin va passer de des milliers et des milliers à 400, 600 hommes. Et là, on va comprendre pourquoi Saül, plus tard, va dire, « Ah, je viens d'une petite tribu, peu d'importance, on a fait des bêtises, puis on a été très humiliés, nous autres. » Ben oui, c'est pour ça qu'ils ont un petit territoire, parce que finalement, leur tribu était tellement rapetissée par une guerre interne qui s'est passée que je ne vous raconterai pas maintenant. Donc, voilà. Et là, chacune des tribus, Dan, ne prendra pas sa possession finalement. Il y a une histoire à la fin du livre qui nous explique qu'ils n'ont pas été capables, à la fin du chapitre, et ça explique pourquoi il y aura plus tard des conquêtes qui vont les amener vers le nord. Alors, le livre nous explique tout ça. Hazar, il n'a pas pris tout son territoire, c'est un territoire côtier important avec des villes qui donnaient accès à la mer. Plusieurs de ces villes-là, ils n'ont pas été capables d'y prendre. Ça fait que ça leur donnait des problèmes. Ensuite, Nephtali, Zabulon, où se trouve Nazareth, Issachar, une ville qu'on va regarder bientôt, Éphraïm et Manassé. Donc, vous voyez les territoires qui étaient à conquérir, où ce que une ou deux grandes villes étaient prises, mais après ça, il fallait continuer. Et là, finalement, tranquillement, on réalise qu'il y a des problèmes. Alors, le développement des tribus continue. Et là, je ne lis pas tous ceux-ci, mais là, on voit la maison de Joseph, avec les deux grandes tribus d'Éphraïm et Manassé qui vont continuer. Et on apprend finalement que ça va bien pour une conquête. Il y a des histoires, des informations complémentaires qui, des fois, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Des fois, on a des explications plus tard. Mais finalement, on arrive à Manassé. Je vous lis Manassé. Regardez avec moi, versets 27 et 28, encore symptomatique de ce qui se représente. Manassé ne chassa point ou n'arriva pas à déposséder, à prendre possession des habitants de Beth-Shéan, ça veut dire maison de sécurité en passant, et des villes de son ressort, ou de Tanak, ou des villes de son ressort, ou de Dor, ou peut-être Endor, c'est cet endroit près de la montagne où ce qu'a amené Saül a consulté une médium et en est ressorti aussi avec des mauvais résultats, ou Jimla, ou bien Megiddo, de son ressort. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Remarquez bien. Qu'est-ce qui était? Les Canaanais, ils n'ont pas voulu partir. Ben oui, c'est rare que les gens disent, hey, on vous aimerait ça que vous preniez votre ville, allez-vous-en ou ben on vous élimine. Non, non, nous, on ne veut pas partir. Ah, bon, OK, ben écoutez, on va devoir vous faire la guerre. Mais là, ils ont des gros remparts, eux autres, là. On n'est pas tant que ça. Un siège, c'est long, c'est coûteux. On va en faire une à la fois, gang. On va attendre un petit peu, on va reporter ça, le projet, là. Et finalement, il y a quelques villes importantes qui ne sont pas prises. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, lorsqu'Israël fut assez fort, lorsqu'elle a pris des forces, on nous dit au verset 28, il assujettit les Canaéens. Ben donc, ils n'ont pas été capables de les battre initialement. C'était intimidant, c'était difficile. Donc, éventuellement, quand ils ont été plus forts, plus nombreux, ils les ont assujettis à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Ah, là, il y a une nouvelle information. Donc, c'est pas juste qu'ils ont pu les chasser, mais là, éventuellement, ils ont trouvé une manière de comme rentabiliser le problème. On n'arrive pas à les éliminer. Peut-être c'est une prochaine génération qui était assez nombreux. On va les assujettir. Et là, ici, un tribut. La plupart des auteurs considèrent le mot ici, c'est peut-être pas autant tribut que les ont amenés à la corvée, parce qu'à soir, un montant d'argent à cette époque-là, c'était pas aussi important que d'avoir du monde pour travailler pour toi. Et donc, il y a beaucoup de traductions que vous avez qui ont probablement mis, ils ont mis à la corvée, littéralement. Donc, l'idée, c'est, on n'arrive pas à s'en débarrasser, ben, rentabilisons un peu notre problème. On va se faire de la main-d'œuvre. Ils vont couper notre bois, ils vont aller chercher l'eau, ils vont faire des constructions à bas prix, c'est de la main-d'œuvre gratos. Fait que, on les bat pas, mais, hey, on a trouvé une manière de rentabiliser et que ça soit profitable. On vous laisse en vie, mais c'est du donnant-donnant. Vous allez travailler avec nous autres parce que là, on est plus fort que vous autres. Vous me suivez? Rappelez-moi, là, c'est quoi que Dieu avait dit? C'est quoi que Dieu avait dit? Ah, c'est ça, hein? Prendre possession, pas négocier une reddition. Pas pareil, ça, là. Éliminer pour pas être contaminé. Laissez-moi vous donner une illustration de pourquoi. OK? J'ai eu l'occasion de visiter ce territoire lorsque j'étais en Israël. Et on a visité justement cette vallée-là. Et je vous ai montré des photos que j'avais personnellement de cette vallée, parce que la plupart des villes qui sont mentionnées ici, dans Manassé, font partie de cette vallée qu'on appelle d'Armageddon, ou de la vallée de Jisréel, une grande vallée très imposante, où on a beaucoup de terres fertiles. Et on retrouve ces cinq villes-là, regardez-les bien, toutes dans cette région-là ici. Peut-être Dor ou Endor, plutôt ici, il y a des débats là-dessus. Mais peu importe, vous voyez ici le territoire qui, particulièrement ici, et la vallée qu'on va montrer dans quelques instants. Je vous montre ici Megiddo, et vous voyez ici la région entourée qu'on est en train de regarder. Donc, Megiddo est une ville importante. J'ai eu l'occasion de la visiter, et toutes les personnes qui vont en Israël vont toujours visiter parce qu'il y a un gros tunnel, puis c'est intéressant, c'est beau, puis c'est... En tout cas. Mais il y a d'autres places plus intéressantes, honnêtement. Mais vous voyez ici, non loin de là, il y avait Nazareth. Il y a aussi, dans les montagnes, il y a la montagne de la Transfiguration, le mont Nebo, duquel j'ai pris les photos qu'il y a là. Donc, je suis sur Nebo, et là, vous voyez ici la grande vallée qui s'ouvre vers la gauche, où ce qu'on a Nazareth juste ici, où ce qu'on a Megiddo qui est au fond de la vallée, puis on a ici une autre montagne où ce qu'il y a peut-être justement Endor. C'est grand, c'est vaste, un territoire extrêmement clé à contrôler pour le peuple d'Israël. Et à travers cette vallée-là, on retrouve aussi la ville de Beth-She'an, que j'ai eu l'occasion de visiter. Alors, à gauche, vous voyez ici la vallée encore, mais à droite, vous voyez Beth-She'an. C'est une photo qui n'est pas mienne, parce que les miennes, on l'a visité le soir. On était quasiment en train de faire du jogging, tellement qu'on visitait le pays en vitesse, là. Fait que s'il fallait, on faisait du jogging à travers un terrain pour le visiter, parce que c'était comme voir le maximum en le moins de temps possible, notre concours, OK? Fait qu'on avait 7 jours, il fallait rentabiliser. Mes photos sont un peu sombres, fait que j'ai pris ceux de mon père en 98. Et certains d'entre vous ont visité. C'est un endroit souvent qu'on visite, Beth-She'an. C'est une des 5 villes mentionnées. Pourquoi je vous la montre? Parce que en la visitant, vous allez comprendre pourquoi il fallait l'éliminer. Parce que là, vous voyez la ville, il y a un gros monticule. Et c'est sur ce monticule que s'est construit justement ces villes, les vieilles villes. La partie qui est ici, c'est la ville qui a été construite par les Grecs à l'époque de Jésus, un peu avant Jésus, après Jésus, tremblement de terre qui a détruit, etc., que les gens marchent dessus. Mais ce n'est pas la vieille ville de l'époque. Elle se trouve sur ce monticule-là ici. Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans ce monticule-là des différentes strates de cette ville où ils creusent à l'intérieur et là, ils découvrent les différentes couches de son histoire. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis devant vous. Il y a un grand théâtre, mais ce n'est pas de cette époque-là. C'est de l'époque après. C'est dans ce monticule qu'on retrouve plutôt, là, en haut du monticule, vous voyez un peu tout. Mais lorsqu'on est dans le monticule, voici ce qu'on découvre. Et je vous lis. C'est entre autres une Bible penchée sur l'archéologie qui souligne cette information que je vous lis. Mais deux temples adjacents ont été découverts au strat numéro 5. Et là, vous dites, ben, pourquoi tu nous dis ça? Je vais vous expliquer. Donnez-moi 30 secondes, là, OK? Là, ceux qui sont comme, non, pas de l'information archéologique, Joël, pas de l'histoire. Ben, patiente un petit peu, là. Et avec les artefacts qu'ils ont trouvés, il y a effectivement des temples à cette époque-là. Un orienté vers l'ouest et l'autre, et ils sont faits de manière assez unique. Le plus gros a 64 pieds par 37 pieds en dimension extérieure. Et dans son toit, il y avait quatre piliers pour tenir son toit. Et au sud, il y en a un autre de 79 pieds par 60 pieds, le plus gros des deux. À l'intérieur se trouve une grande salle centrale avec 6 colonnes. Et on a découvert cela, et on a découvert qu'il y avait un temple, probablement d'Astarté et de Dagon. Là, maintenant, je vous lis les Écritures. Le livre de Samuel, chapitre 31, verset 10, nous dit ceci. Lorsqu'ils ont tué Saül, ils l'ont amené à Beth-Shéan. C'est cette ville-là que les Philistins contrôlaient et ont amené les restes de roi Saül. Et voici ce qu'on lit. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple d'Astarté, la déesse, compagne de Baal, de la fertilité, qu'on priait, dont on faisait toutes sortes de messe, je veux dire noire, mais de basse messe sexuelle avec des prostituées sexuelles pour inciter les dieux à être fertiles avec nous pour nos champs, etc. Et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shéan. Mais Chronique nous donne une autre information complémentaire. Il dit au chapitre 10, verset 10, il dit ceci. Ils déposèrent les âmes de Saül dans le temple de leur dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Il y avait deux temples. Et on les a découverts, comme la Bible dit. Deux temples avec des dieux des Philistins importants, deux dieux très importants à l'époque, qui amenaient toutes sortes de pratiques en couple et en homme seul. Les hommes se sacrifiaient pour... Tu sais, chérie, t'sais, il faut vraiment qu'on ait des bonnes récoltes puis qu'on ait de bonnes températures. Fait qu'il faudrait que j'aille au temple, tu sais, pour t'sais, devoir faire, là, il faut faire la messe qu'il faut, là, t'sais, pour t'sais, inciter les dieux à être fertiles avec nous. Mais c'est pas personnel, chérie, là. Je vais être avec des prostituées au temple. Ça stimule beaucoup les rois. Désolé pour ceux qui ont moins de 18 ans, mais c'est vraiment ça qui était le cas. Alors, ces hommes, évidemment, offraient leur corps en sacrifice pour qu'ils aient, évidemment, une bonne récolte. C'était très difficile pour eux de voir faire ces pratiques-là. Hein? Vous comprenez mon ironie, n'est-ce pas? Des religions qui incitent au charnel, qui utilisent des manières d'appâter. C'était intéressant, c'était stimulant. Hein? Et c'est pas pour rien que c'était attirant. C'est pas pour rien que le Seigneur voulait qu'on élimine ça, sachant très bien l'occasion de chute que tout cela apportait au... Et le mal sexuel, les violences qui étaient autour de tout cela, les fausses croyances, plutôt que de croire dans un Dieu qui n'avait pas créé la sexualité pour ça. Mais les religions, c'était stimulant d'avoir ça, puis ça attirait du monde, c'était populaire. Hein? Vous me suivez? On va faire des parallèles dans pas long. Et donc, vous comprenez pourquoi il fallait l'éliminer, cette ville-là? Il y avait trop de tentations là à gérer. Dieu, il dit pas ça pour rien, pour le fun. Il avait été patient pendant 1000 ans, les amis. Il y a des raisons pourquoi il donne ces consignes. Mais les gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des raisonnements. Et je vous donne un résumé de ces raisonnements-là, parce qu'évidemment, il faut se donner bonne conscience, on est pour comprendre, obéir à Dieu. On se donne des raisonnements pour négocier avec Dieu. Non, Joël, je négocierai jamais avec Dieu. Non, on ne le fait pas officiellement sur le papier, on le fait dans notre conscience subtilement. C'est comme si on disait, et bien les croyants le disent, des choses similaires de compromis. Au moins, on va retirer un peu d'argent de cette affaire-là. T'sais, c'est un malheur qui nous frappe, c'est difficile. Je pourrais en donner un peu plus à l'œuvre de Dieu en plus. Hein? Ils vont faire du ménage au temple, puis dans les synagogues, ce monde-là. Ça va être utile, là. On va tout en profiter, là. Hein? Une sorte de prix de consolation du perdant. Tant qu'à faire, hein? les tant qu'à. Tant qu'à être pogné avec mon problème, tant qu'à. On fait ça aussi dans les réparations, puis ça coûte plus cher. Hein? Tant qu'à. Et bien vivre avec sa conscience. Que ce soit l'esclavage d'abandonner un combat qu'on sait qu'on devrait mener. Quelque chose qui est un esclavage dans ma vie. Puis là, c'est dur. Puis là, j'abandonne, puis là, je me donne des raisonnements pour me donner bonne conscience. Parce que c'est tellement dur, ce combat-là. Je ne veux pas le mener toute ma vie. Ben oui, peut-être que tu vas le mener toute ta vie. Mais peut-être aussi que Dieu va te garder humble à travers ça puis te soutenir toute ta vie. Dieu, il n'a pas enlevé l'épine dans la chair de Paul. On se donne des raisonnements. Ah, travailler sans tout déclarer. Bon, c'était pas beaucoup, c'est pas mon revenu principal, c'est un revenu secondaire. Ah, c'est du type. Ah, ben tu sais, c'est des petits montants, puis tu sais, j'en donnais à Dieu en plus. Hey, ça m'impressionne, ça. Oui, oui, oui. Ah, je fréquente quelqu'un que je devrais pas, en amitié. Ouf, je fréquente quelqu'un qui partage pas la même foi que moi. Là, je me donne des raisonnements. Oui, c'est un croyant quand même. Ah, puis... Ou, ah, finalement, ma gestion de la sexualité. On se donne des raisonnements qui me permet que... Ben, tu sais, Dieu dit, Maria, mais tu sais, on est engagé. On va se donner des raisonnements pour se faire bonne conscience. Même si Dieu donne d'autres prescriptions sur la sexualité, on va se donner des raisonnements pour vivre notre sexualité comme le monde le préconise, avec simplicité, puis pas se mettre des jougs sur nous autres, puis des fardeaux, des obligations. Voyons, je ne ferais pas bien là-dedans. On va faire ça dans toutes sortes de choses de notre vie. Là, je vous donne quelques illustrations rapides demain. Il y en aurait une liste tellement longue, vous savez, de compromis qu'on peut faire dans notre vie, où qu'au lieu de prendre possession avec la foi que ça demande et l'obéissance que ça requiert, oser me mettre à risque de dépendre de Dieu pour prendre possession, j'abandonne. Je décide de ne pas chasser parce que c'est trop dur. Et là, je me donne des raisonnements pour vivre avec bonne conscience de désobéir à Dieu. Et peut-être des petits compromis que, ah ben tu sais, je donne que ça comme compensation, des petites offrandes, et que Dieu n'a pas demandé. C'est pas ça qu'il a demandé. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Mais il les laisse vivre les conséquences de leur choix. Triste situation. Ce qu'Israël a fait, c'était une désobéissance en faisant des accommodements raisonnables. C'était raisonnable. On avait des raisonnements qui nous permettaient de le faire pour qu'on puisse vivre avec bonne confiance. Mais cette série d'échecs tribaux était le premier indicateur que dans cette première génération, avait déjà commencé à arrêter de marcher par la foi et de faire confiance à Dieu qu'ils avaient amené dans ce pays avec Moïse dans le désert, avec Josué pour les conquêtes initiales. Et là, maintenant, au niveau tribal, ouf, là, on est un petit peu moins, ouf, là, ça demandait un pas de foi plus gros, on était plus vulnérables. Et finalement, ça nous prépare donc pour le reste des histoires qui s'en viennent, à comprendre pourquoi on est là où ce qu'on en est. Je vous lis là, et pas les prochains versets, parce que malheureusement, les prochains versets sont une sorte de refrain, supplice, que finalement, c'est pas juste ces deux occasions-là, il y en a cinq autres. Éphraïm aussi n'a pas conquis une partie. Zabulon aussi en a laissé une partie. Asé aussi n'a pas dépossédé. Oh, Nephtali aussi n'a pas dépossédé. Oh, les Amoréens aussi, Dan, écoute, il y avait des gros chars, il était une plus grande avancée technologique, je ne pouvais pas relever ça. Eux autres aussi, Dan, ils n'ont pas réussi à déposséder, fait qu'ils vont être un peu errants, et c'est pour ça qu'il va amener qu'au lieu d'obéir et de prendre la terre que Dieu leur a promis, par la foi, ils vont se ramasser avec une histoire sordide à la fin du livre, consacrée à la tribu de Dan. Puis, vous allez voir, c'est pas chic. Ils vont aller vers un autre territoire, mais à quel prix? Au prix de leur âme. Au prix de leur âme. Et on lit finalement que c'est le même échec pour Dan. Vous savez, ce refrain-là est un refrain irritant à relire à travers le chapitre. Je vous laisse le lire. Vous êtes capable de lire et j'espère qu'après une prédication, vous prenez le temps de lire ces textes-là pour vérifier et pour gratter un peu plus loin. Mais ces refrains-là, malheureusement, vous savez, il y a des beaux débuts de chapitres comme ça dans bien des vies chrétiennes. Le Seigneur dit, monte, monte. Là, par la foi, dans ces premières années-là, on conquiert, on prend possession, on fait des défis avec Dieu, puis on obéit sans trop y réfléchir. Puis là, finalement, on commence, finalement, au bout de quelques années de vie chrétienne, on commence un peu plus à devenir confortable, puis on commence plus à calculer le coût. Sous la pression que c'est difficile. Ceux qui vous impressionnent autour de vous, les chrétiens inspirants, c'est qu'ils ont continué à conquérir. Avec des hauts et des bas, mais ils ont continué à conquérir. Mais j'ai remarqué, à travers les années de vie chrétienne, que beaucoup de chrétiens vivent exactement cela. Un beau départ. Mais avec les années, ils viennent une sorte de routine, de confort. Et notre confort américain, nord-américain, nous aide beaucoup, nous cultive beaucoup le confort de nos belles petites fesses. qu'on installe sur des beaux petits sofas, qu'on ne dérange pas trop. Et on fait ça avec notre foi. On devient confortable. Et on arrête de prendre possession. Et tout à coup, ben là, la vie chrétienne devient un petit peu moins le fun. Ben, je comprends, il n'y a plus de grande conquête, il n'y a plus de grand risque. Sans grand risque, il n'y a pas de grande conquête dans laquelle Dieu nous transporte à travers des défis qu'on n'arrive pas à faire de nos propres forces. Et tranquillement, cette vie chrétienne devient une vie chrétienne de médiocrité, d'accommodement raisonnable, qui n'a plus de croissance. Et là, rendu là, on se pose la question, y avait-il une vraie vie ou c'est une vie comme eux qui avaient, mais qui finalement vit dans le compromis? Et là, oh, mais la vie chrétienne n'est pas facile, puis je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne. Mais il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être des territoires qu'on a raté de conquérir par la foi et qui, là, tranquillement, ma vie chrétienne n'est plus ce qu'elle était. Et je peux comprendre l'insatisfaction que beaucoup vivent. Mais je pense que ce chapitre-là en est un portrait très, très réaliste. Vous ne trouvez pas? Les Juifs ne sont pas bien différents de nous. De même chair, les mêmes défis. Et n'allez pas prendre l'excuse que nous, c'est pire notre contexte. On va en parler de notre contexte. On va l'étudier, on va essayer de réfléchir. C'est quoi on se combat contre? Eux autres, ils avaient tout ça comme contexte et je vous épargne tous les détails. Mais le même défi existe par la foi. Juste avant de conclure, je vous lis ce verset. « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ce que je veux, ils donneront aux foules d'enseignements conformes à leurs propres désirs. » Quelque chose qui ne choque pas trop le dimanche matin. Quelque chose qui ne dérange pas trop les gens dans la société. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se détourneront vers des fables. N'est-ce pas un portrait de notre époque? Pasteur Wiersbe, un pasteur que j'apprécie beaucoup, un prédicateur tellement centré sur Christ, il a dit ceci, « Le premier pas de la nouvelle génération qu'on vient de parler ici, vers la défaite et l'esclavage, a été de négliger la parole de Dieu. » Il avait donné un ordre très clair. Les générations qui ont suivi ont fait la même erreur. « Je crains que trop de croyants aujourd'hui essaie de vivre de fast-food religieux. » Il a dit ça il y a 30 ans. C'est tellement d'actualité. Dispenser pour une consommation facile sans avoir à mâcher, par des enseignements divertissants qui donnent aux gens ce qu'ils veulent et non ce dont ils ont besoin. Je répète, ce qu'ils veulent et non ce qu'ils ont besoin. Faut-il s'étonner que de nombreuses églises n'expérimentent pas la puissance de Dieu et l'œuvre dans leur ministère? Je trouvais ça intéressant ce qu'il pouvait dire, et il va souligner l'importance de pourquoi il fallait éliminer le peuple de Canaan, puis c'était un ordre de Dieu. Dieu a eu 1000 ans de pitié de eux pour se repentir, puis les chances qu'il leur a données, etc. Et il ajoute à la toute fin de son commentaire, « La principale divinité des Cananéens était Baal, dieu de la pluie et de la fertilité, et Astarté, il l'a écrit différemment de la manière de le dire en anglais, était son épouse. Si vous vouliez avoir des vergers, des vignobles fructueux, des récoltes florissantes et des troupeaux en augmentation, vous adoriez Baal en rendant visite à une prostituée dans le temple. Il était difficile pour les hommes de résister à cette combinaison d'idolâtrie, d'immoralité et de réussite agricole, ce qui explique pourquoi Dieu a demandé à Israël d'exterminer complètement la région des Cananéens. » Il y avait une raison. C'était par amour. C'était après avoir donné 1000 ans de grâce. C'était pour nous protéger. C'était pour protéger leurs enfants parce qu'on n'est que chair, facile à tomber. Et donc, c'était un geste d'amour. Au-delà de ce que l'être humain pouvait voir comme barbarie, Dieu n'est pas barbare. Dieu est un Dieu de grâce dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Puis ça n'a pas commencé dans le Nouveau avec Jésus. Il était de grâce depuis le jardin d'Éden. Il n'a pas changé Dieu. Toujours usant de grâce envers nous. Et il nous avertit par ce livre, par cet auteur. Comment est-ce qu'on atterrit cela? 4 petites pistes de réflexion que je vous lance en terminant. Premièrement, un beau début. J'aimerais vous rappeler et vous exhorter à dire, ça vaut la peine de demander des choses à Dieu, de lui parler, de le consulter dans toutes nos décisions. Il répond, les amis. Le début du chapitre nous le dit. Ils ont demandé, il a répondu. Consultez pour l'achat de votre char. Consultez pour un problème au travail. Mais là, je ne vais pas demander à Dieu toutes les affaires. Il veut que je m'arrange. Non, Dieu ne veut pas que tu t'arranges. Non! Il veut te tenir la main partout où tu vas. Il veut que tu fasses rien sans lui. Parce que c'est un créateur, un papa attentionné. Il veut pas que tu te débrouilles et dis, ben, je vais m'arranger tout seul, puis quand je vais avoir de la misère, Seigneur, va te demander mon aide. C'est pas un papa terrestre qui dit, je veux que tu deviennes autonome avec tes lacets, puis que t'arrêtes de me le demander. Il est pas comme ça, Dieu. Il veut que tu continues à lui dire, Seigneur, je sais comment les attacher, tu me l'as montré, mais tu ferais-tu mes attacher encore? Ça me fait tellement du bien quand c'est toi qui mes attaches, parce que sinon, je deviens fier, puis je dis, regardez tout le monde, je fais tellement des belles boucles. On a tous vécu ça, hein, maintenant à 5 ans. On rit parce que, n'est-ce pas la nature humaine naturelle d'être fier de ce que je fais, de rapidement me vanter, de mettre le moi de l'avant. Puis le Seigneur dit, je veux qu'à chaque fois que tu mettes une coupe, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai montré comment le faire. Puis quand, chaque fois que quelqu'un dit, « Hey, belle ta boucle, sais-tu c'est qui me l'a montré? » Puis qu'on soit toujours en train de pointer celui que je veux jamais être autonome de. Vous voyez? C'est ça la vie chrétienne. Mais quel défi! Quel défi! L'Éternel, il a dit qu'il sera avec eux 3 fois dans le chapitre. Il aurait pu le dire à tous les versets, l'auteur, mais ponctuellement dans le chapitre, il va le répéter, versets 4, 19, 22, l'Éternel livra, l'Éternel fut avec. Vous dites, hey, dans tout ce brouhaha-là, l'Éternel était là. Il y aurait beaucoup de détails encore à dire, mais l'essentiel est là. L'Éternel était là. Il t'a promis qu'il serait avec toi. Il va l'être. Doute-en pas. Agis comme. Dieu est là. Dieu n'abandonnera jamais son Église. Malgré que dans l'Église, parfois, on a l'impression que Dieu l'a abandonné en voyant le comportement humain. Dieu est tellement grand qu'il travaille au milieu de nos bêtises. Et il accomplit sa volonté même malgré les distractions apparentes de nos bêtises. Ça, c'est parce que Dieu est grand. Parce qu'il est au contrôle de tout. Il mérite ma confiance. Troisièmement, le principe que cet homme a parlé de mériter les conséquences qu'il a eues, semer, récolter, ça devrait nous faire réfléchir. L'exhortation ou pas l'exhortation, ce brin de lucidité que cet homme a eu pour dire, ah, « Est-ce que je mérite, je chialerai pas, je l'ai fait à 70 rois, c'est bien normal qu'on me le donne. » Quelle lucidité de cet homme-là qui nous fait réfléchir à notre propre victimisation. Je dis, attends un peu, là, je suis un pécheur. Pourquoi je me fais une victime? Je mérite la mort. Tout ce que j'ai en bas de ça, c'est pure grâce de Dieu. Et si j'avais tout ce que je méritais, je serais perdu. Dieu merci que je n'ai pas tout ce que je mérite. Et là, tout à coup, j'arrête de me victimiser, pauvre de moi. Oh, telle chose est arrivée. Arrêtons, on vit sur terre, on vit tout ça, les amis. Tournons-nous vers lui qui est avec nous et semons avec l'aide de Dieu. Il y a des gens qui sèment toute leur vie, mais sans l'aide de Dieu, par leur force. Et ils paraissent bien, et ils veulent récolter par leur force. Ne récoltons pas pour avoir semé par nos forces. Le Seigneur nous dit qu'on va être récompensé pour avoir semé avec lui dedans. Et que lui nous fasse faire des choses. Et ça, il dit, vous allez récolter même des récompenses aux cieux, dans la demeure qui nous prépare. C'est spécial. Il nous dit ça pour nous encourager. Ça devrait avoir un impact pour nous motiver. Pas de juste être fier de mes belles œuvres. Et ça, ben, n'importe quel non-croyant peut faire ça, vous savez. Ça ne sauve personne. Juste semer pour récolter pour moi. Bien au-delà de cela, le Seigneur nous appelle. Et finalement, la leçon finale, et je vais inviter l'équipe à s'approcher, celle de d'arrêter de vivre dans le compromis. D'arrêter de prendre possession de ce que Dieu m'a amené et appelé à prendre par la foi. J'aimerais arrêter un instant, juste nous poser la question. Et posez-vous la question, je la pose aussi. Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie que tu m'as demandé de prendre possession et que j'ai arrêté de croire de prendre possession? Que je me suis donné des raisonnements pour arrêter de continuer à me battre et de réclamer, de prendre possession. On a tous des défis à relever, tous, sans exception. Il y a des combats qu'on va mener une période de notre vie et que là, on va passer à d'autres choses. Il y a des combats qu'on va mener toute notre vie. Mais est-ce que ce matin, comme les Juifs, je me suis donné des raisonnements et que j'ai abandonné de combattre ce que Dieu m'a demandé de prendre possession? Et j'aimerais te dire ce matin que l'auteur du livre des juges est en train de nous dire « Arrête de te donner des excuses comme les Juifs et fais ce que Dieu t'a demandé par la foi. » Et par la foi, continue à réclamer Dieu et de te battre pour prendre ce que Dieu t'a demandé de prendre. Arrête d'accepter des mensonges, des raisonnements qui te justifient. Mais prends ce que Dieu t'a demandé de prendre. Et si c'est difficile, c'est normal. Il n'y a rien de bien qui est facile, les amis. Faire le mal, c'est facile. Mais les bonnes décisions sont toujours coûteuses. Sont toujours difficiles, surtout les maintenir. Est-ce qu'il y a un domaine ce matin que le Seigneur est en train de dire, « Je veux que tu reprennes le combat ce matin. » Prions le Seigneur. Seigneur, c'est vers toi qu'on se tourne parce que nous sommes faibles et, Seigneur, nos pensées, notre tête est tellement empreinte naturellement d'être pécheur qu'elle te donne des raisonnements qui sont durs pour moi de me battre avec. Je trouve toujours moyen de me raisonner, pour expliquer le compromis dans ma vie en me disant chrétien et pourtant, Seigneur, je te demande pardon ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de recommencer d'être ce petit enfant qui te demande, Seigneur, tu peux-tu m'aider à attacher mes lacets, s'il vous plaît? Je ne suis pas capable tout seul. Puis j'espère que même que j'ai compris que je n'arrêterai pas de te le demander régulièrement parce que dans le fond, je veux continuer à te tenir la main et dépendre de toi, Seigneur. Je ne veux jamais être autonome. J'ai hâte de me retrouver en ta présence. Mais en attendant, c'est un combat et j'ai besoin de toi tous les jours, dans toutes mes décisions. Je ne veux pas être autonome, Seigneur. Ce monde me mène vers l'autonomie de Dieu et moi, je veux me battre pour rester dépendant de toi, Seigneur. Je te demande pardon parce que souvent, j'abandonne de me battre, de tenir la main. Sinon, qu'est-ce que c'est d'être un chrétien si je m'arrange toujours toute seule? Je veux être un petit descendant de Christ, un petit imitateur de toi, Seigneur. Et tout comme Jésus était dépendant de son Père tout au long de sa vie, qui ne prenait jamais de décision tout seul, qui se ressourçait tout seul, avec, je veux aussi suivre comme Jésus ce modèle de toujours dépendre de mon Papa. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux te donner ces villes que j'ai abandonnées de combattre, ces territoires dans ma vie que j'ai arrêté de prendre possession. Et je veux te demander de me renouveler mes forces, cette vision pour aller de l'avant et de continuer à conquérir dans ma vie spirituelle, à conquérir avec mon Église, dans notre ville pour qu'on ait un impact, à conquérir dans ma famille, des membres de la famille que j'ai abandonné, Seigneur, de prier pour eux. Parce que ça a l'air tellement de des territoires impossibles à vaincre. Effectivement, Seigneur, c'est impossible à vaincre. Mais toi, tu peux le faire. Je continue à croire en toi. Et je veux te réclamer ce territoire dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, aide-nous. Amen.